Mais en somme, ces Templiers étaient des pauvres types alors ? Demanda Diotalevi. Non, dis-je. C'est ma faute, je cherchais à donner plus de nerfs à l'histoire. Ce que nous avons dit concerne la troupe, mais dès le début, l'ordre avait reçu d'immenses donations, et peu à peu il avait construit des commanderies dans toute l'Europe. Pensez qu'Alphonse d'Aragon lui faisait cadeau d'une région entière. Mieux, il le couche sur son testament, et lui laisse son royaume au cas où il devrait mourir sans héritier. Les Templiers ne s'y fient pas, et font une transaction comme pour dire « peu de ces maudits machins et à bouler tout de suite ». Mais ces peu de maudits machins sont une demi-douzaine de forteresses en Espagne. Le roi du Portugal lui donne une forêt. Et vu qu'elle était encore occupée par les Sarrasins, les Templiers se jettent à l'assaut, chassent les morts, puis, un exemple en passant, ils fondent Coimbre. Et ce ne sont que des épisodes. En somme, une partie combat en Palestine, mais le gros de l'ordre s'étend en métropole. Et qu'arrive-t-il ? Que si quelqu'un doit aller en Palestine et qu'il a besoin d'argent, et qu'il ne veut pas se risquer à voyager avec des bijoux et de l'or, il fait inversement aux Templiers en France ou en Espagne ou en Italie. Il reçoit un bon et il encaisse en Orient. « C'est la lettre de crédit, dit Belbo. » « Bien sûr. Ils ont inventé le chèque et avant les banquiers florentins. Donc vous comprenez, entre donations, conquêtes à main armée et provisions sur les opérations financières, les Templiers deviennent une multinationale. Pour diriger une entreprise de ce genre, il fallait des gens avec la tête sur les épaules. » Des gens qui réussissent à convaincre Innocent II de leur accorder des privilèges exceptionnels. L'ordre peut garder pour lui tout le butin de guerre, et partout où il a des biens, il n'en répond ni au roi, ni aux évêques, ni au patriarche de Jérusalem, mais seulement au pape. Exemptés en tout lieu des dîmes, ils ont droit de les imposer eux-mêmes sur les terres qu'ils contrôlent. Bref, c'est une entreprise toujours en actif où personne ne peut fourrer le nez. On comprend pourquoi ils sont mal vus par évêques et souverains, sans toutefois qu'on puisse se passer d'eux. Les croisés sont brouillons, des gens qui partent sans savoir où ils vont et ce qu'ils vont trouver. Les Templiers, par contre, sont chez eux dans ces contrées. Ils savent comment traiter avec l'ennemi. Ils connaissent le terrain et l'art militaire. L'ordre des Templiers est une chose sérieuse, même s'ils s'appuient sur les rodomontades de ces troupes de choc. « Mais était-ce des rodomontades ?» demanda Diotalevi. « Souvent, oui. » Encore une fois, on est stupéfait du décalage entre leur savoir politique et administratif et leur style béret rouge. Il ne manque pas d'estomac à défaut de cervelle. Prenons l'histoire d'Ascalon. « Prenons-la, dit Belbo, qui s'était distrait pour saluer avec ostentatoire luxure une certaine Dolores. Laquelle s'assit à côté de nous en disant « Je veux entendre l'histoire d'Ascalon, je veux l'entendre. » Donc, un jour... Le roi de France, l'empereur allemand Baudouin III de Jérusalem et les deux grands maîtres des Templiers et des Hospitaliers décident d'assiéger Ascalon. Ils partent tous pour l'assaut, le roi, la cour, le patriarche, les prêtres avec les croix et les étendards, les archevêques de Tyr, de Nazareth, de Césarée, bref, une grande fête, avec les tentes dressées devant la ville ennemie, les oriflammes, les grands pavois, les tambours. Ascalon était défendu par 150 tours, et ses habitants s'étaient préparés depuis longtemps au siège. Chaque maison était percée de meurtrières, comme autant de forteresses dans la forteresse. À mon avis, les Templiers qui étaient si forts, ces choses-là, ils auraient dû le savoir. Mais pas du tout. Ils s'excitent tous, se bâtissent des tortues et des tours en bois, vous savez, ces constructions à roues qu'on pousse sous les murailles ennemies, et lancent du feu, des pierres, des flèches, alors que de loin, les catapultes bombardent avec des blocs de roc. Les Ascalonites cherchent à incendier les tours, le vent leur est défavorable. Les flammes s'attaquent aux murailles qui, au moins en un point, s'écroulent. La brèche. Alors, tous les assiégeants s'y jettent comme un seul homme. Et il arrive une chose étrange. Le grand maître des Templiers fait faire barrage. De manière que dans la ville n'entrent que les siens. Les malveillants disent qu'il agit ainsi afin que la mise à sac enrichisse uniquement les Templiers. Les bienveillants suggèrent que, craignant un guet-apens, il voulait envoyer ses braves en reconnaissance. Dans tous les cas, je ne lui confierai pas la direction d'une école de guerre. 40 Templiers parcourent toute la ville à 180 à l'heure, se lancent contre les murs d'enceinte du côté opposé, freinent dans un grand nuage de poussière, se regardent dans les yeux, se demandent ce qu'ils font ici, rebroussent chemin et défilent à tombeau ouvert au milieu des morts qui, par les fenêtres, les criblent de pierres et de viretons, les massacrent tous, y compris le grand maître, colmatent la brèche, pendent aux murailles les cadavres et de leurs poings font la figure au milieu d'immondes ricanements. « Le mort est cruel, dit Belbo. « Comme des enfants, répéta Diotalevi.
« Mais ils étaient vachement catanguettes et templiers, » dit Dolores tout excité.
« Moi, ça me fait penser à Tom and Jerry, » dit Belbo. J'eus des regrets. Au fond, je vivais depuis 2 ans avec les templiers et je les aimais.
Pris dans le chantage au snobisme de mes interlocuteurs, je les avais présentés comme des personnages de dessin animé. Peut-être était-ce la faute de Guillaume de Tyr, historiographe peu fiable. Ils n'étaient pas comme ça, les chevaliers du Temple, mais barbus et flamboyants, avec la belle croix rouge sur leur manteau blanc, caracolant à l'ombre de leur drapeau blanc et noir, le Beaucéan absorbé merveilleusement par leur fête de mort et de hardiesse, et la sueur dont parlait Saint Bernard était sans doute un éclat de bronze qui conférait une noblesse sarcastique à leurs effrayants sourires, tandis qu'ils veillaient à fêter si cruellement l'adieu à la vie. Lion en guerre, comme disait Jacques de Vitry, agneau plein de douceur en paix, rude dans la bataille, pieux dans la prière, féroce avec leurs ennemis, bienveillant pour leurs frères, marqués par le blanc et le noir de leurs étendards parce que plein de candeur pour les amis du Christ, sombre et terrible pour ses adversaires. Pathétique champion de la foi, dernier exemple d'une chevalerie sur le déclin, pourquoi me comporter avec eux comme un Arioste quelconque, quand j'aurais pu être leur Joinville? Me vinrent à l'esprit les pages que leur consacrait l'auteur de l'histoire de Saint-Louis qui, avec Louis le Saint, était allé en Terre Sainte, écrivain et combattant à la fois. Les Templiers existaient désormais depuis 150 ans. On avait suffisamment fait de croisades pour harasser tout idéal. Disparus comme fantômes les figures héroïques de la reine Mélisande et de Baudouin le roi lépreux. Consumés les luttes intestines de ce Liban ensanglanté dès alors. Tombé une fois déjà Jérusalem, Barberousse noyé en Cilicie, Richard Cœur de Lion vaincu et humilié qui regagne sa patrie, déguisé justement en Templier, la chrétienté a perdu sa bataille. Les morts ont un sens bien différent de la confédération entre potentats autonomes, mais unis dans la défense d'une civilisation. Ils ont lu Avicenne. Ils ne sont pas ignares comme les Européens. Comment peut-on rester pendant 2 siècles exposé à une culture tolérante, mystique et libertine sans succomber à ses appâts, et avec la possibilité de la mesurer la culture occidentale, grossière, balourde, barbare et germanique, jusqu'à ce que, en 1244, on ait la dernière et définitive chute de Jérusalem. La guerre, commencée 150 ans avant, est perdue. Les chrétiens devront cesser de porter les armes dans une lande destinée à la paix et au parfum des cèdres du Liban. Pauvres Templiers, à quoi a servi votre épopée? Tendresse, mélancolie, pâleur d'une gloire sénescente. Pourquoi ne pas se mettre alors à l'écoute des doctrines secrètes des mystiques musulmans, à l'accumulation hiératique de trésors cachés? C'est peut-être de là que naît la légende des chevaliers du Temple, qui encore hante les esprits pleins de déceptions et de désirs. L'histoire d'une puissance sans bornes, laquelle, désormais, ne sait plus sur quoi s'exercer. Et pourtant, quand le mythe déjà décline, arrive Louis, le roi saint, le roi qui a pour commensal Thomas d'Aquin. Lui, il y croit encore, la croisade. Malgré 2 siècles de rêves et de tentatives ratées à cause de la stupidité des vainqueurs, cela vaut-il la peine de tenter encore une fois? Cela vaut la peine, dit Louis le Saint. Les Templiers sont d'accord, ils le suivent dans la défaite, parce que c'est leur métier. Comment justifier le Temple sans la croisade? Louis attaque Damiette par la mer. La rive ennemie reluit tout entière de piques et de halbardes et d'oriflammes, de boucliers et de cimeterres. Bien belles gens à voir, dit Joinville avec chevalerie, qui porte des armes d'or frappées par le soleil. Louis pourrait attendre. Il décide au contraire de débarquer à tout prix. Mes fidèles, inséparables dans notre charité, nous serons invincibles. Si nous sommes vaincus, nous serons des martyrs. Si nous triomphons, la gloire de Dieu en sera accrue. Les Templiers n'y croient pas, mais ils ont été éduqués à être des chevaliers de l'idéal. Et c'est là l'image qu'ils se doivent de donner d'eux-mêmes. Ils suivront le roi dans sa folie mystique. Le débarquement, incroyablement réussi. Les Sarrasins, incroyablement, abandonnent Damiette, à telle enseigne que le roi hésite à y entrer car il ne croit pas à cette fuite. C'est pourtant vrai. La ville est sienne. Et siens en sont les trésors et les 100 mosquées que Louis convertit sur le champ en église du Seigneur. Maintenant, il s'agit de prendre une décision. Marcher sur Alexandrie ou sur le Caire? La décision la plus sage eût été Alexandrie, pour enlever à l'Égypte un port vital. Mais il fallait compter avec le mauvais génie de l'expédition, le frère du roi, Robert d'Artois, mégalomane, ambitieux, assoiffé de gloire et tout de suite, comme tout cadet. Il conseille de se diriger sur le Caire, cœur de l'Égypte. Le Temple, d'abord prudent, à présent ronge son frein. Le roi avait interdit les combats isolés, mais c'est le maréchal du Temple qui transgresse l'interdit. Il voit une troupe de mamelouks du sultan et crie « Or à eux, de par Dieu, je ne pourrais supporter pareille honte !» À Massoura, les Sarrasins se retranchent au-delà d'un fleuve. Les Français cherchent à construire une digue pour créer un gué, et ils la protègent avec leur tour roulante, mais les Sarrasins ont appris des Byzantins l'art du feu grégeois. Le feu grégeois avait une pointe aussi grosse qu'une futaille, sa queue était comme un grand glaive, il arrivait ainsi que la foudre et ressemblait à un dragon qui volait à travers les airs. Et il jetait une telle lumière que dans le camp on y voyait comme en plein jour. Tandis que le camp chrétien est tout entier une seule flamme, un bédouin félon indique un guet au roi pour 300 besans. Le roi décide d'attaquer. La traversée n'est pas facile. Beaucoup se noient et sont entraînés par les eaux. Sur la rive opposée, 300 Sarrasins à cheval attendent. Mais enfin, le gros de la troupe touche terre, et selon les ordres, les Templiers chevauchent à l'avant-garde, suivis par le comte d'Artois. Les cavaliers musulmans prennent la fuite, et les Templiers attendent le reste de l'armée chrétienne. C'est alors que le comte d'Artois bondit avec les siens à la poursuite des ennemis. Or, pour ne pas être déshonoré, les Templiers aussi se jettent à l'assaut. Mais ils arrivent juste derrière l'Artois, lequel a déjà pénétré dans le camp ennemi et a fait un massacre. Les musulmans prennent la fuite en direction de Mansoura.